Bonjour et soyez les bienvenus dans Patara, le débat politique de Radio Ndeke Luka. Nous débattons aujourd'hui du rôle et du profil du député, l'élu de la nation. La campagne électorale pour les partielles est lancée depuis le 27 février et celle du second tour des élections législatives qui commence aujourd'hui dure jusqu'au 12 mars. Une occasion pour les candidats de convaincre les électeurs, mais aussi un moment pour certains de faire des promesses à la population. Question, quelles sont les caractéristiques d'un élu de la nation? Pourquoi aujourd'hui les candidats font des promesses fallacieuses à la population? Et pour en parler, je reçois autour de cette table et dans le studio B de Radio Ndeke Luka, M. Laurent Gomina Pampali, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes ancien parlementaire, élu 4 fois député de Nola 3 et ancien président du Parlement de la CEMAC. Nous avons Paul Cressant Beninga, bonjour.
Bonjour.
Juriste, politologue, porte-parole du groupe de travail de la société civile. Et Patrick Alain Tekoma, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la commission communication de la plateforme Beoko qui soutient les actions du pouvoir. Au centre des discussions, je suis Armand Nguindi et la technique est assurée par Sylvain Nambois. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Voilà, le débat politique, je rappelle à passant que nous avons invité M. Pascal Koyamine du Rassemblement démocratique centrafricain RDC. L'opposition, malheureusement, ne s'est pas rendue disponible pour ce débat politique. Première question à vous, M. Gomina Pampali. Qui peut être le député de la nation ou l'élu de la nation?
Peut-être élu député, tout citoyen centrafricain des deux sexes, âgé de 25 ans, remplissant, bien sûr, les critères définis par la loi, et plus précisément par le code électoral. Et ils sont nombreux, ces critères.
Oui, entre autres, ça peut nous aider.
Entre autres, n'avoir jamais fait la prison, avoir un casier judiciaire vierge, déjà cela. En principe, la lutte pour les critères ne fait que se poursuivre parce qu'à un moment donné, on ne peut pas raisonner de ce qui n'est pas écrit. On aurait souhaité que le Centrafricain qui veut devenir député sache au moins lire, écrire et compter. Puisque vous venez de reconnaître que j'ai été élu plusieurs fois député, on s'était battu à l'époque pour cela. Mais je viens de relire le code électoral, ce n'est pas inscrit. Mais au moins, il faut avoir le casier judiciaire vierge. Voilà.
On va revenir pour comprendre pourquoi il faut avoir un casier judiciaire vierge pour être élu de la nation. La
même question. Et être capable de payer aujourd'hui 250 000 francs CFA.
250 000 francs CFA, c'est le quota.
La caution.
La caution, j'allais dire. Oui, je reviens vers vous, monsieur Alain Dekoma, pour la même question. Hein.
Oui, bon, je crois que le professeur l'a si bien dit. Vous savez, en France, pour être député, il faut avoir minimum 18 ans. Mais ici, c'est 25 ans. Bon, on comprend pourquoi on dit ici, c'est 25 ans. Donc, à ce niveau, à 25 ans, en République centrafricaine...
Vous comprenez?
Oui, on comprend facilement.
Moi, je comprends pas. Facilement.
Hein. Je comprends pourquoi, parce que c'est simple. Ici, un enfant de 18 ans, à l'Assemblée, à mon humble avis, c'est pas aussi... mieux que ça. Donc, il préfère que ça soit quelqu'un qui est un peu mûr, ce qui lui permettrait de comprendre certaines choses, ce qui lui permettrait d'avoir le niveau requis. Je parle pas le niveau requis parce que bon, il n'y a pas un critère ou bien un profil spécifique pour être député. N'importe qui désire d'être député peut devenir, mais il faut nécessairement qu'il aime la politique. Parce qu'on ne tombe pas comme ça pour être député. Il faudrait qu'il aime la politique parce que au niveau du Parlement, c'est un corps, hein, c'est un corps comme le corps des militaires, c'est comme le corps des enseignants, c'est à peu près ça. Donc voilà à peu près, il n'y a pas de critères spécifiques.
Voilà, il n'y a pas de critères spécifiques sur ce point. Monsieur Paul Cressant Beninga, qu'en dites-vous?
Alors j'ai suivi mes prédécesseurs dans la prise de parole. Effectivement, il y a un débat qui se pose à ce niveau. Les critères qui sont définis dans le code électoral peuvent être sujets à débat. L'âge de 25 ans, personnellement, je trouve que c'est beaucoup. Si ailleurs, c'est 18 ans, n'empêche, que les Centrafricains également à 18 ans peuvent réfléchir. C'est pas une question que les Centrafricains ne peuvent pas à 18 ans être députés. Je pense que on peut effectivement réduire ce critère d'âge là, le ramener à 18 ans. À 18 ans révolus, le Centrafricain est supposé être majeur selon le législateur
centrafricain. Ça se trouve pour la présidentielle et ça freine aussi.
Pour la présidentielle, on peut également en débattre. On peut également en débattre. Aujourd'hui, c'est 35 ans minimum, alors qu'on peut réduire même à 25 ans, même à 30 ans. Écoutez, quelqu'un l'a dit, c'est pas moi qui le dis, la valeur n'atteint pas le nombre d'années. Sois le meilleur quoi que tu sois, ou que tu trouves, ou quoi que tu sois, passez-moi l'expression. Et donc, je suis de ceux qui pensent qu'il y a certains critères qui peuvent être sujets à débat. Le critère qui m'intéresse davantage, M. Gomi n'a pas parlé là, simplement effleuré, c'est le critère, par exemple, de la bonne conduite. On a donné aux législateurs centrafricains, notamment à la Cour constitutionnelle, une prérogative qui, de mon point de vue, n'est pas bien définie. Lorsqu'on parle de bonne conduite, qu'est-ce qu'on met dedans? Et on a vu, lorsqu'il fallait valider les candidatures, on a évoqué ce critère-là pour récaler certaines personnes. Mais si on s'en tient à ce critère-là, je pense que certaines personnes qui ont été, dont les dossiers ont été validés, devraient être récalées si on s'en tient au critère de bonne conduite. Bon, ça fait que c'est à l'appréciation du juge, c'est à l'appréciation effectivement de la Cour constitutionnelle.
Mais l'appréciation,
et donc, je suis de ceux qui pensent que il faut des critères qui sont clairs, qui ont des bornes, qui ont des frontières. Par exemple, lorsqu'on parle de bonne conduite, c'est dit déjà, ceux qui ont été condamnés ne peuvent pas être candidats.
Condamnés, et si la personne a purgé sa peine, elle peut revenir.
Oui, mais la personne a un casier judiciaire. La personne a un casier judiciaire. Et donc, à partir de ce moment-là, la personne ne peut pas être candidate. Là, c'est clair. On sait que sur la base de bonne conduite, on parle de la condamnation, et à partir de ce moment, c'est clair. Mais le critère de bonne moralité, moi, ça me gêne parce que je ne sais pas ce qu'on y met dedans. Ce d'autant plus que l'interprétation varie d'un juge à un autre.
Monsieur Gomela Pampali, vous voulez réagir, répondre?
Je voulais ajouter un élément d'histoire et de sociologie. Dans le mot candidat, il y a la racine latine, candidus, qui signifie blanc, pur. Pour être candidat, à l'époque, au temps des Romains...
Comme neige. Hein.
Ah oui, il faut être blanc comme neige, c'est-à-dire qu'on ne vous reproche rien, vous avez une conduite suffisamment bonne, parfaite, dans la cité, dans la société, et on vous sélectionne, et c'est parmi vous maintenant qu'on va, bien sûr, élire
le président de l'Assemblée, le membre du bureau.
Le député, enfin, du moins, celui qui représente la population ou le peuple. Donc... ne perdons pas de vue cet aspect-là qui remonte, bien sûr, à l'histoire européenne. Bon, nous ne sommes que des héritiers.
Oui.
Hein, et moi, l'histoire de 18 et 25, vous allez peut-être croire que je suis un traditionnaliste et autres. Je trouve que c'est trop jeune aussi parce que en Centrafrique, le jeune homme de 18 ou de 25 ans est encore chez ses parents. Il dort chez ses parents. Il n'est pas responsable.
Mais est-ce que c'est une raison? Puisqu'il y en a qui réfléchissent bien. Même s'il est encore chez ses parents, il dort chez ses parents, mais il peut réfléchir, il peut vraiment prendre position pour défendre l'intérêt de la population.
Oui, il peut avoir des cas nels de personnes de 18, 20, 25 ans qui raisonnent bien, mais c'est pas ce cas particulier qui doit, effectivement.
Oui,
c'est vrai. Mais il faut quand même tenir compte de cette sociologie-là.
Et donc, dans ces cas, 25 ans, vous rejoignez Paul Cressant Benigam qui parle de ramener, peut-être, de proposer s'il y a lieu, afin qu'on puisse ramener le critère d'âge à 18 ans.
Moi, je voyais 30 ans plus tôt.
30 ans. Vous voulez mettre 5 ans de plus.
Non, je pense que on ne va pas rentrer dans un débat qui va laisser penser qu'il s'agit d'un débat, d'un conflit de génération. Loin de là. Mmh. Mais lorsque j'insiste sur le fait qu'à 18 ans, un jeune centrafricain, une jeune centrafricaine peut être candidat ou candidate, simplement parce que le législateur centrafricain, lorsque vous lisez la plupart des textes centrafricains, on accorde la majorité aux jeunes centrafricains à 18 ans. Pourquoi est-ce qu'à 18 ans, on demande à un jeune centrafricain d'aller voter?
Et même
pourquoi
dans les campagnes,
on empêche à ce même jeune à qui on demande d'aller voter à 18 ans d'être candidat? C'est vouloir une chose et son contraire. La question de la maturité, c'est en fonction de chaque individu. La personne peut avoir 25 ans et peut ne pas être mûre. La personne peut avoir 30 ans et peut ne pas être mûre. Mais à partir de 18 ans, on estime, le législateur centrafricain estime que le jeune centrafricain est majeur. Il peut voter, il jouit d'un certain nombre de droits. Il peut même se marier sans avoir le consentement de ses parents. Parce qu'il n'est plus un majeur émancipé, il est un majeur plein.
Et même si le contexte centrafricain, avec ce que nous connaissons, comme vous avez dit, M. Gomina Pampali, à 18 ans, l'enfant ou bien le jeune centrafricain encore chez ses parents, mais on peut tolérer puisque c'est la loi.
C'est la loi, mais la loi devrait devrait correspondre à la réalité de la société. Hein, on ne doit pas soit recopier ou prendre ce qui se fait ailleurs. On devrait de temps en temps faire attention, prêter attention à la réalité sociale, sociologique, culturelle d'un pays pour concevoir les lois. C'est ça. La plupart du temps, nos problèmes nous viennent de ce que nous prenons des lois pour faire un peu comme les autres. Nous n'avons pas le même niveau de développement.
Copier-coller.
Oui, nous n'avons pas le même niveau de développement économique,
social et autres.
Mais on veut déjà appliquer chez nous ce qui se fait ailleurs. Si bien que souvent, ça nous amène plus de problèmes que de solutions. Mais je reconnais que parmi, et ce n'est pas pour, là, je suis d'accord avec mon jeune compatriote Crescens. Hein, c'est pas
un conflit
de génération, mais nous devons regarder. Hein, c'est pas mauvais de regarder les réalités et de faire avec.
Bon, je reviens avec vous, monsieur Alain Décoma, sur le critère de casier judiciaire de chaque candidat. Est-ce que c'est exactement la réalité que nous pratiquons aujourd'hui à travers la loi, monsieur Alain Décoma?
Non, moi je ne suis pas là pour supposer ou bien chercher à comprendre la réalité. Ce qui est important, lorsque le juge décide, à partir de ce moment-là, il faut appliquer. Il n'y a pas question de chercher à faire des contours, là. C'est très simple. Aujourd'hui, si par exemple monsieur Alain Décoma a été jugé coupable de quelque chose, condamné, j'ai un casier judiciaire. À ce niveau, il n'y a pas débat. On est clair là. Il n'y a pas débat à ce niveau. Donc, si aujourd'hui, ces problèmes de casier judiciaire se posent, bon, il faut demander au juge de voir ces cas-là et puis essayer de traiter comme tel. Mais bon, il y a des cas où on peut dire qu'il y a des exceptions. Moi, je ne crois pas. Il n'y a pas d'exception à ce niveau. Donc, il faut traiter les choses telles qu'elles sont. Et à partir de ce moment, ben, appliquons la loi. C'est
mais
tout.
Il y a plusieurs exceptions.
Tu as une preuve ?
Oui, il y a certaines personnes sur le terrain qui sont condamnées, qui reviennent et qui ont postulé et que leurs candidatures sont prises en compte.
Tu peux me donner un nom ?
Il y en a.
Qui ?
Il y en a dans
non,
le pays.
Non, je dis, est-ce que tu peux me donner un nom ?
Non, je ne peux pas citer quelqu'un ici.
Parce que là, quand tu supposes, il y a déjà quelque chose, une idée de suspicion. À partir de ce moment, il faudrait que tu sois vraiment concise dans ses pensées, dans tes pensées.
Est-ce que vous n'avez pas eu l'information comme nous?
Je n'ai pas eu l'information de ce genre. Moi, d'accord. Je n'ai pas eu l'information de ce genre. Donc, je ne peux pas aller dans ce sens-là.
La même question tout à l'heure avec le casier judiciaire. Est-ce qu'aujourd'hui, à la réalité du terrain, ceux qui sont condamnés et puis après qui reviennent, qui postulent, qui deviennent candidats, est-ce que cela échappe au juge?
Alors, de deux choses l'une. Soit cela échappe au juge, comme vous l'avez dit, soit le juge est complice de certaines personnalités. Il n'y a que ça. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, ça choque certaines personnes, bon, la République centrafricaine est un grand pays sur le plan de sa superficie. Mais sur le plan démographique, la République centrafricaine est un petit pays, ce qui fait en sorte qu'on se connaît presque tous dans ce pays. Du moins, ceux qui sont dans l'arène politique se connaissent presque tous. Et donc, si aujourd'hui, le juge estime qu'un monsieur qui a été condamné, et dans le casier judiciaire, il est connu de tous, réussit à passer l'étape de la validation des candidatures. Je dis de deux choses l'une, soit le juge n'est pas informé, soit le juge est au courant de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, et ne veut pas simplement sanctionner la personne pour des raisons que nous pouvons effectivement imaginer. Ça peut être une complicité entre le juge et ses personnalités, soit encore la personne condamnée, et dans le casier judiciaire, n'est pas néant. Cette personne peut faire de telle sorte avec le tribunal, s'organiser de telle sorte qu'elle brandisse un casier judiciaire néant. Et là, ça lie la volonté du juge. Parce que le juge constitutionnel, par exemple, à partir de ce moment, ne peut pas aller au-delà d'un casier judiciaire qui lui a été dûment présenté par les tribunaux pour pouvoir dire que je sais que tu as été condamné et je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu brandis un casier judiciaire néant. Ça ne relève plus de sa compétence et ça devient un peu plus compliqué. Voilà les trois hypothèses que je peux émettre par rapport à cette question.
Oui, monsieur Gomila Pampali.
Mon cher compatriote, votre mission a une certaine importance. Elle vient dans le contexte des élections générales en Centrafrique. Et nous devrions faire l'effort de dire la vérité pour que les mauvaises choses changent. Moi, ça fait plus d'une trentaine d'années que je suis dans ces choses-là. Par rapport aux questions que vient de vous poser
monsieur Alain Décoma.
Mon fils Décoma, je lui dirais, j'ai des noms que je ne citerai pas, bien sûr, parce que je suis bien éduqué, et j'ai des cas de personnes qui ont quitté leur circonscription pour aller se faire délivrer un casier judiciaire dans une autre préfecture.
À Nanamambéré.
À Nanamambéré, il quitte Lola, il va à Boire ou à Berati. Et il revient, il ramène, et il met dans le dossier, c'est fini, l'ANE
même si,
prend,
même s'il
si
était condamné. Oui.
Hein, alors qu'on devait s'attendre à ce que les juridictions travaillent en symbiose. Hein. Si vous êtes condamné à Nola, vous ne pouvez plus vous faire délivrer un casier judiciaire à Boire
on accuse le système judiciaire de le pays.
Oh oui, mais il y a pas à hésiter si effectivement le système ne marche
manque
pas.
Manque de moyens adéquats pour faire ce genre de travail.
Parfois
si quelqu'un
de moyens,
est condamné à Ntélé, va falloir que à Boire les juges à Boire soient au courant.
Exactement.
Que, oui, on a condamné tel
le
X.
Le système n'est pas informatisé.
Voilà. C'est ça.
Comprenez cela. Le système n'est pas informatisé.
Et donc, dans ce cas, vous rejoignez ma question tout à l'heure.
Non, je ne rejoins pas ta question, mais je dis seulement que le système n'est pas informatisé.
Oui, mais c'est pas la seule raison. Bikouma, il y a que la tendance aussi est à vouloir effectivement verser dans la concussion, dans la corruption et dans la concussion. On paye. Celui qui va se faire délivrer un casier judiciaire dans une autre juridiction ne le fait pas gratuitement. Il avance beaucoup d'argent et on lui délivre un casier judiciaire.
Voilà. Nous sommes dans le débat politique de Radio Ndekeluka et nous discutons aujourd'hui de la question du rôle et du profil du député. Est-ce qu'un député peut être forcément un intellectuel? Si oui, pourquoi, M. Alain Dekoman?
Non, il faut dire tout de suite non. Il n'y a pas un profil spécifique pour être député. Être député, c'est quelqu'un qui est engagé en politique, qui sait ce qu'il veut au niveau de la société, et il sait à peu près là où il veut aller. Parce que je disais tout à l'heure que c'est un corps, il a le métier de député, tu as des missions et tu as le bon sens. Parce que le travail du député, c'est quoi? C'est d'élaborer des lois pour faire fonctionner...
Élaborer des lois, oui.
Voilà, il y en a plusieurs.
Contre les actions du gouvernement.
Exactement.
Voter des lois,
élaborer ou voter, bon, tout ça là. Donc, il y a beaucoup de missions, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas un profil spécifique. Celui qui est engagé pleinement en politique, parce que aujourd'hui... C'est vrai, il y a des gens qui pensent que bon, il faut chercher le minimum suffit seulement d'être député. Mais non, il faut vraiment s'engager pleinement en politique pour savoir ce que c'est. Parce qu'il faut aimer ce métier, il faut l'aimer. Quand tu aimes ce métier, tu le feras bien. Tu le feras au profit de la population, tu le feras pour le développement de ton pays. Mais si tu n'aimes pas et que tu vas pour un autre but, c'est à partir de là que bon... nous constatons tous que des fois il y a des dérapages, nous constatons tous des fois que les gens n'arrivent pas à accomplir une mission décente dans ce sens-là. Voilà à peu près ce que je peux dire.
Monsieur Paul Cressan Beninga, si aujourd'hui un député est appelé à voter, à élaborer des lois, à contrôler les actions du gouvernement, est-ce qu'il est forcément qu'il soit intellectuel pour pratiquer ce métier?
J'ai bien peur du mot intellectuel parce que c'est un mot qui peut être sujet à débat, mais si je vais partir du rôle d'un député pour répondre à votre question. Les députés ont plusieurs rôles. On peut citer entre autres celui de légiférer, c'est un législateur, celui de représenter, il représente sa circonscription, celui de contrôler l'action du gouvernement. Lorsqu'il légifère, ça peut être par le biais d'une proposition de loi, c'est-à-dire qu'une proposition de loi qui a été faite par un autre collègue député en commission est soumise en plénière. Ça peut être un projet de loi qui vient du gouvernement. Il peut également, en plénière, faire des amendements lorsqu'on veut effectivement parler du vote d'une loi. Il peut, lorsqu'il représente, ça veut dire qu'il devient un relais entre l'Assemblée nationale et sa circonscription. Lorsqu'il contrôle l'action du gouvernement, on peut soumettre à son appréciation un projet de loi de finances, le budget, si je puis me permettre. Vous allez voir qu'il lui faut un minimum. Moi, je dis, il faut qu'il sache lire et écrire. Mais en République centrafricaine, il y a un débat. Que lire et écrire veulent dire? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit qu'il faut savoir lire et écrire? Nous avons deux langues, français et le sango. Le sango est à la fois une langue nationale et officielle. Le français est une langue officielle. Ça veut dire que le député, même s'il ne sait pas lire et écrire en français, il peut savoir lire et écrire en sango. Et à partir de ce moment, il jouit de toutes ses facultés pour pouvoir être député. Ce que nous pouvons regretter et ce qui constitue une entrave aujourd'hui dans la bonne marche de l'Assemblée nationale, c'est que toutes les lois, tous les projets de loi, tous les textes qui viennent sont élaborés en français. Même pas un résumé en sango.
Pas de traduction
sango. Ce qui fait en sorte que il y a certains députés qui savent lire et écrire en sango estiment qu'ils ne peuvent pas prendre connaissance, et ce n'est pas une estimation, mais c'est une réalité. Ils ne peuvent pas aller au fond des documents qui sont soumis à leur appréciation. Et très souvent, ces députés font l'objet de moqueries au point qu'ils n'interviennent presque jamais à l'Assemblée nationale.
Et ça, la plupart des débats se font en sango en français.
Oui, le débat, c'est une chose. Mais prendre connaissance des textes en est une autre. Il est important que le député qui doit se prononcer sur le vote d'un texte, il faut qu'il prenne connaissance de ce texte-là, qu'il comprenne les enjeux, ce qui n'est pas le cas. Et je finis par dire ceci. Au niveau de la 6e législature, on entend les gens dire que cette 6e législature est la pire de toutes les législatures connues de la République centrafricaine. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a une histoire, si vous voulez, qui participe qu'on doit tenir compte lorsqu'on analyse la 6e législature. L'histoire, c'est laquelle? C'est qu'au sortir du conflit ou des conflits armés de 2012-2013, les populations centrafricaines ont décidé de récompenser un certain nombre de personnalités dans leur localité. Il y a des gens, par exemple, qui n'étaient que des commerçants, que ce soit de droit ou de fait, qui ne savent ni lire ni écrire. Il y a des gens qui sont peut-être des bouchers, qui ne savent ni lire ni écrire. Je ne dis pas que les bouchers, les commerçants ne savent ni lire ni écrire. Mais il y en a dans certaines localités qui savent ni lire ni écrire. Mais qui, pendant les plus forts du conflit ou des conflits centrafricains, ont été aux côtés de ces populations-là. Et lorsque vient le moment des élections, certains ont été plébiscités par les populations de ces localités-là. Et ce qui fait en sorte qu'au niveau de la 6e législature, on a une assemblée, effectivement, où on a des députés qui savent ni lire ni écrire et qui ont fait l'objet de moqueries. Mais en réalité, il faut tenir compte de l'histoire
de notre pays. Monsieur Gomina Pampalé, je rappelle que vous avez été élu 4 fois député de Nola 3, je crois. C'est ça. Et aujourd'hui, vous avez écouté Monsieur Alain Dekouma, Monsieur Paul-Christian Beninga. Le pouvoir du peuple par le peuple, cette démocratie-là, n'a pas fait mention ou n'a pas défini un critère intellectuel de la représentativité de la population.
Il faut d'abord dissocier les deux statuts, le statut d'intellectuel. Je crois que Cancens a dit quelques mots dessus. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. Le statut d'intellectuel n'a rien à voir avec le statut à la fonction de député. Un intellectuel, c'est une personne, bien sûr, qui a fait des études supérieures et qui consacre son temps à examiner, analyser, critiquer la société, la vie de la société, et surtout qui écrit des livres. Voilà, il faut produire des livres, il faut un homme de culture. Voilà l'intellectuel. Mais nous avons certainement tendance à vouloir confondre intellectuel et lettré. Quelqu'un qui est lettré, bien sûr, c'est celui qui a aussi fait des études, mais qui sait lire et écrire, qui a dépassé peut-être un peu le niveau BPC, BAC, etc. Cette personne, c'est une personne instruite. Et nous souhaitons qu'en Centrafrique, de plus en plus, pour améliorer les prestations du secteur public, du milieu politique, il faut que ceux qui viennent à l'Assemblée nationale, ceux qui entrent au gouvernement, soient des hommes lettrés. Il y a un pays, le Niger, à un moment donné, il y a eu un coup d'État là-bas, les militaires sont venus, et au moment où ils préparaient à normaliser la situation politique, ils ont imposé des critères. Si vous voulez être député, il faut au moins le bac. Si vous voulez être membre du gouvernement, il faut au moins la licence ou le master. Parce qu'ils veillent à ce que le ministre ou le député ne soient pas des gens perdus au moment où ils doivent discuter des problèmes du pays, au moment où on leur donne des dossiers. Rapidement, je vous raconte encore, parce que j'en ai des histoires.
Oui, vous avez quelques secondes.
Quelques secondes. Je ne sais plus, c'était en 2005 ou 2011, je suis réélu, c'est Nola 2, hein, pas Nola 3. J'ai jamais
Nola
été élu.
3, Nola 2,
Nola qui 2, est devenu Nola 3. Alors, je suis élu, un autre voisin aussi est élu à Nola 1, et on arrive à l'Assemblée. Bon, lui, il était désavantagé parce qu'il ne savait pas lire, il ne savait ni lire, ni écrire. La première séance, après c'était en octobre, on nous distribue le budget, un gros, c'est gros le budget de l'État. Et bien sûr, on lui a remis son document, son dossier, on m'a remis le mien. Et à la fin de la séance, chacun se retire chez lui, mais au lieu d'aller chez lui, il me suit jusqu'à mon domicile. On s'assoit, je veux savoir, bon, de quoi il s'agit. Est-ce qu'il vient me voir pour quelque chose, pour un renseignement? Il dit, non, honorable. Mais ça, c'est ce gros livre-là, c'est pourquoi? Je dis, ah, mais c'est le budget, tu dois aller étudier ça, examiner, puis le jour où le ministre des Finances va venir, tu poseras des questions. Il dit, ah bon? Excuse-moi, Sango, il dit, ah, donc, Kwati député ni là? Vous voyez, c'est, ça fait mal. pour la population qu'il a envoyée, pour l'État centrafricain, etc., etc. Il y a d'autres exemples.
Il y a d'autres
donc,
exemples.
Il faut que le député sache lire, écrire et
donc et ça, c'est, vous voulez parler de l'inconvénient
d'avoir
un député voilà. moins instruit, si vous
moins
voulez.
Moins instruit. Un député, c'est quoi? C'est un représentant. Vokuma l'a dit, Kassens l'a dit. C'est un représentant, mais un représentant du peuple. Mais le peuple ne doit pas être représenté par un aveugle. Parce que celui qui n'a pas d'instruction, c'est un aveugle. Comment le peuple peut se faire conduire par... Comment le peuple peut se laisser...
Oui, merci beaucoup. Voilà. Monsieur Alain Dekma, je vous vois sourire là. Vous voulez...
C'est le terme. C'est le terme, le peuple peut être conduit par un aveugle. C'est ce terme-là, au fait... C'est cette phrase ici qui m'a fait un peu sourire. Mais bon, au fait, ce que soulève le professeur, il faut comprendre que la réalité aujourd'hui est telle que nous pouvons comprendre toutes ces choses-là. Nous pouvons aisément comprendre. Aujourd'hui, comme Bénigne l'avait soulevé tout à l'heure, en 2012-2013, lorsqu'il y avait eu cette pagaille-là, mais après, bon nombre de ceux, généralement, qui ont l'habitude d'aller... se faire représenter par des circonscriptions et telles, mais les gens se sont rendus compte que ceux qui viennent généralement de Bangui, je pense, de ceux qui veulent être députés en province, parce que en province, bon nombre de ceux-là, dès qu'ils deviennent députés, mais ils sont plus dans leur localité, ils sont tous à Bangui. Bon, ça commence une autre vie, ils embrassent au fait un autre milieu et tout, mais les gens ont compris que, généralement, quand ils donnent leur suffrage à ces gens-là, mais ils ne restent pas sur place. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Si un petit boutiquier du coin qui a l'habitude de les aider, quand le monsieur vient là, il n'a pas la possibilité d'avoir le café ni le sucre, et celui-là l'aide, mais du coup, dans sa tête, non, celui-là peut me représenter.
Exactement.
Voilà cette nuance-là. Bon, il faut comprendre, mais le véritable problème, il faudrait que les politiques puissent, c'est-à-dire, voir cette situation-là et essayer de commencer à avoir des collèges de partis. Et ceux qui ont des partis politiques, mais ça c'est leur devoir, de faire de telle sorte que ce message-là passe en allant vers la population en disant que non, pour être député...
Et ça c'est un travail.
Voilà. Voilà. C'est un travail de longue haleine.
Vous voulez parler des partis politiques qui même investissent ces candidats.
Ces candidats, oui.
C'est
un
problème.
Je n'aime pas trop dire analphabète, machin, tout
moins
ça.
Moins assuré, bon, c'est vrai.
Pour éviter de toucher la sensibilité des gens. Non. Mais c'est important que ces partis politiques-là puissent prendre leurs responsabilités et faire ce travail de fond, pas de forme.
Monsieur Paul Christian Beninga, sur ce même point des partis politiques, au regard de la situation, on voit que ces partis politiques investissent, ces candidats-là, mais même il y en a où on parle de la moralité douteuse, où on sait qu'à Boire, il est condamné, mais à Bambari, il a présenté un autre casier judiciaire, mais qui sont candidats de ce parti politique-là. Est-ce que c'est un problème de confiance au niveau de ces partis politiques?
Vous savez, les partis politiques ont un rôle. Leur rôle, c'est de conquérir le pouvoir. Un parti politique a un rôle, c'est de conquérir le pouvoir et de s'y maintenir longtemps, le plus longtemps possible. Pas par le biais d'une alternance, bien évidemment, mais c'est toujours le même parti. Et lorsque le parti se rend compte qu'il existe certaines ressources humaines qui peuvent participer, qui peuvent l'aider à participer à la conquête du pouvoir, le parti n'hésite pas.
Exactement.
Et donc, le parti peut prendre quelqu'un qui sait ni lire ni écrire et fait de lui un candidat simplement parce que le parti estime que cette personne peut l'aider à gagner les élections dans une localité. Et donc, à partir de ce moment, on est dans un système qui est tel que on voit d'abord l'intérêt du parti avant de revenir à la question qui touche à la moralité et à l'éthique. C'est extrêmement
important. Et même l'intérêt public.
Mais on a dit quelque chose ici et je voudrais ajouter en disant qu'il y a ce qu'on appelle également l'école de parti ou les écoles de parti. Il y a ce qu'on appelle les écoles de parti. Les écoles de parti sont des écoles qui permettent aux instances dirigeantes des partis politiques de former leurs militants, de leur faire savoir ce que civisme veut dire, ce que être militant des partis politiques veut dire, ce que participer à la gestion de la chose publique veut dire. Et je pense qu'au sein de ces partis, si les militants, même s'ils ne savent ni lire ni écrire, et que s'ils subissent les formations au sein de ces partis, ils ont quand même une capacité de réflexion. Et à partir de ce moment, effectivement, on peut balayer d'un revers de main le reproche qui est fait aux partis politiques, ceux qui plébiscitent effectivement, ceux qui savent ni lire ni écrire.
Voilà le rôle des partis politiques dans cette question que nous posons aujourd'hui, monsieur Gomina Pampalié. Vous êtes aussi président d'un parti politique. Est-ce que vous prenez en compte exactement tous ces dires Alain Dekoma, Paul Cressan Biniga dans votre formation politique pour investir un candidat
législatif? Le problème soulevé ici par mes deux compatriotes est un problème réel. C'est un problème de culture politique qu'on devrait effectivement, sur lequel on devrait insister, parce que en principe, ailleurs, ça ne se passe pas, je veux dire ailleurs, en Europe, ça ne se passe pas comme cela, on ne se lève pas comme ça pour devenir député. En général, on est militant d'un parti, on est coopté par le parti, on a effectivement bénéficié de la culture, de la formation politique, on connaît la doctrine du parti qu'on va défendre devant le peuple, etc. etc. Ce n'est pas encore vraiment le cas en Centrafrique. Et il y a une méprise grave, parce que, comme disait Crescens, les partis ne voient que la popularité. Voilà un terme qui est là. Ah, ce garçon, est populaire, ce monsieur est populaire, hein, il est connu, il est aimé.
Il est connu du milieu. Voilà,
du milieu, voilà. Etc. Donc on ne tient même plus compte de son niveau de formation, de son niveau d'instruction. Et bon, on l'envoie, on le soutient, surtout quand on a beaucoup d'argent, comme le camp de l'autre.
Vous voulez parler de GMC?
Il y a eu des cas où, effectivement, où on est étonné de voir que un grand parti puisse soutenir d'anciens voleurs, d'anciens assassins. Et j'ai des exemples concrets que je ne vais pas citer ici, n'est-ce pas? Mais chaque parti devrait faire l'effort de sélectionner. Voilà, je crois que l'essentiel, c'est cela. Sélectionner. Ne pas envoyer des gens qui ont du sang sur la main.
Critères d'identification et de sélection.
Enquêter sur la vie des gens, des candidats, même s'il est populaire. La popularité n'est pas une vertu comme telle. C'est vrai, elle est valable en politique, parce qu'on croit qu'on peut, comment dire, réunir beaucoup de monde, se faire voter facilement. Mais à la longue, si l'homme populaire n'est pas compétent, n'est pas lucide, n'est pas éclairé, eh bien, ça nuit et au camp, enfin au parti politique et au pays. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà, Alain Dekoma, sur cette question, nous allons avancer un peu pour savoir davantage. Chez nous, en Centrafrique, dans les législatures précédentes, représentées même par les plus instruits, ces derniers ne proposaient pas assez de lois. Pourquoi? Ils ne prennent pas assez de temps pour discuter, ni défendre les intérêts de leur population ou de leur localité.
Mais je crois qu'il y a plusieurs aspects qui rentrent dans ce cadre-là. Parce que si, déjà, le professeur avait soulevé ici, il avait un collègue député qui était arrivé...
Et ça, c'est pour les moins instruits. Ce que je pose là, c'est pour les plus instruits.
Oui, pour les plus instruits. Comprenez une chose. Je dis ça sous le contrôle... professeur qui a fait plusieurs fois, il est élu plus de 4 fois. Comprenez que le professeur, c'est l'exemple que je ne dis pas que c'est lui. Le professeur, s'il est élu, et que s'il n'a pas un cabinet, parce qu'en France, un député élu, il a un cabinet. Mais ici, on est RCA,
cabinet parlementaire.
Ici, on est RCA, un député élu, il n'a même pas un cabinet parlementaire. Il fait son travail à seul, il n'a même pas un assistant. Comprenez que, par exemple, il est convié peut-être à l'université de Sorbonne ou bien où. Il est parti peut-être faire une conférence là-bas. Mais entre-temps, son fauteuil au niveau de l'Assemblée nationale ici est resté vide. Comment il peut participer? Comment il peut contribuer efficacement? Parce que bon nombre, généralement, dès qu'ils sont votés, mais ils ne sont pas sur place. Ils sont entre les 4 avions. Ils sont tout le temps en train de rechercher encore d'autres profits ailleurs. Et c'est ça qui pose problème. Donc, à ce niveau, à mon humble avis, il est temps que les gens puissent être responsables. Responsables dans quel sens? Je ne dis pas que ce n'est pas eux tous, mais je dis seulement, je suis en train de pointer du doigt, ceux qui savent très bien qu'ils ont beaucoup à faire, mais c'est important pour eux d'avoir un cabinet. Même s'il n'est pas là, son assistant peut toutefois pas le représenter.
Il y en a qui sont même là sur place, qui ne voyagent pas, mais qui pensent à un autre quinquennat, à une autre élection.
C'est connu dans notre pays, c'est connu. Les gens, beaucoup plus, quand ils deviennent députés, c'est pour autre chose. Et puis après, ils pensent seulement à leur élection et ils attendent toujours les derniers moments pour aller vers leurs électeurs et commencer à les soudoyer, commencer à faire des opérations de charme, tout simplement pour être réélu après disparaître. Ça, nous le savons. Mais ce cas que je suis en train de dire, c'est important qu'un député élu puisse avoir un cabinet parlementaire, un assistant qui permettra ce qu'il puisse faire bien son travail à bon escient. Merci.
Oui, M. Gomila Pampalé, je vous vois.
Oui, M. Bekouma a raison d'évoquer les conditions de travail du député centrafricain depuis 1993 jusqu'à ce jour. Puis notre pays a connu vraiment des crises qui font que le travail n'est pas réellement amélioré au niveau de la représentation nationale. Je suis moi-même interpellé par votre question, puisque je fais quand même partie des gens, des lettrés. Mais j'ai passé 20 ans et je n'ai pas laissé mon nom comme la loi Gomina Pampali. J'ai tenté, c'est pas que je n'ai pas tenté de proposer une loi, mais c'est le parcours, hein, c'est pas facile. Le député qu'on soit, il faut que ça aille au gouvernement, que le gouvernement donne son avis. Et le plus souvent, ça part et parfois ça ne revient pas vite ou alors ça n'aboutit pas. Parce que, bon, on va reprocher au projet à la proposition de loi de ne pas réunir telle condition, de ne pas réunir. En six législatures, je me rappelle que la loi Bangaïsi, qui avait été votée, ça a été proposé par un député et c'est devenu une loi. Mais il faut reconnaître qu'il avait vraiment bénéficié également de l'appui, de l'apport de certaines ONG internationales qui sont à Bangui, qui l'ont aidé à faire aboutir la loi. Mais ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile, voilà. Vous l'avez déjà dit. Voilà. Je reviens vers Paul Cressan Beninga. C'est vrai, les plus instruits, on les voit difficilement proposer des lois, comme l'a dit M. Gomina Pampali, mais il y en a qui prennent difficilement aussi la parole. Hein. On les voit, qui s'effacent même de l'Assemblée, puisque c'est là où on peut avoir une discussion pour prendre la parole, et qui ne s'intéressent pas beaucoup plus aux discussions.
Oui, mais...
Pour les intérêts même, d'ailleurs, de la population.
Ça se comprend, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez comment est-ce que la 6e législature a fonctionné jusque-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains députés lettrés, intellectuels, qui sont en réalité des profitos situationnistes, qui ont juste besoin de ce statut de législateur, de ce statut de député pour faire des affaires et pour faire autre chose. Ouais. Simplement parce qu'il y a une méconnaissance de ce que immunité parlementaire veut dire. Qu'est-ce que immunité parlementaire veut dire? Lorsque les gens ne savent pas, les gens en profitent. Vous savez par exemple qu'il y a certains députés qui vont à Douala acheter des marchandises et viennent à la douane et disent que ce sont les marchandises de tel député. Qui est-ce qui fait comprendre à ce député qu'il ne doit pas payer les taxes douanières sur les marchandises? Tout dépendra de la destination de ces marchandises. S'il fait des affaires, il doit payer les taxes douanières, il doit payer les taxes fiscales. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et cette question d'immunité, vous savez que en droit, lorsqu'on parle d'immunité parlementaire, il y a deux éléments fondamentaux. La question de l'irresponsabilité et la question de l'inviolabilité. L'irresponsabilité, ça veut dire que le député ne peut pas être tenu responsable pour ses propos tenus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. L'inviolabilité le protège vis-à-vis de loi. Ça lui permet d'avoir une certaine indépendance lorsqu'il exerce ses fonctions. Mais en dehors de ses fonctions, le député doit être considéré comme n'importe quel citoyen centrafricain. Et donc, les gens, si vous voulez, se servent de cette question d'immunité et s'arrogent un certain nombre de prérogatives qui, du point de vue de droit, n'existent pas. Et c'est comme ça que vous allez voir certains hommes d'affaires. Prenons un exemple simple. Vous avez un homme d'affaires qui a un chiffre d'affaires de 100-150 millions. Qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée? S'il ne parle pas, il ne propose pas des textes, il ne participe pas au débat, ça veut dire qu'il a simplement besoin de ce statut-là pour continuer à faire ses affaires. Et c'est simplement parce qu'on interprète mal ce que représente un député au sein d'une société. C'est pourquoi cet homme d'affaires-là en profite. Oui. Et ils sont nombreux au sein de la 6e législature. J'ose croire et espérer que la 7e législature qui va être mise en place, les choses vont changer et que les Centrafricains qui nous écoutent et qui nous entendent comprennent que lorsqu'on est un député, le député jouit des mêmes prérogatives, des mêmes droits et ont des devoirs comme n'importe quel centrafricain lorsqu'il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Donc il faut que les gens comprennent. Si on ne comprend pas ça, effectivement, il y a certains députés qui vont se servir de ce statut-là pour faire de n'importe quoi, passez-moi l'expression.
Nous sommes et on dans le débat politique.
Au niveau des frontières, oui. au niveau des postes de douane où il y a toujours ce tiraillement entre les députés et les douaniers qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que le député brandit aujourd'hui son étiquette, son statut de député pour échapper finalement à...
Nous sommes dans le débat politique de Radio Ndekeluka. Nous parlons du profil et du rôle d'un député élu de la nation. Une autre question, est-ce que le député est obligé de s'en tenir aux orientations partisanes, même s'il s'agit des questions d'intérêt général, monsieur Alain Dekoma?
Ça, c'est une question phare. Je dis une question phare dans quel sens? Lorsqu'on est élu député et qu'on fait partie d'un groupe parlementaire, on doit suivre le mot d'ordre. On doit suivre le mot d'ordre. C'est important. Parce que si tu es élu sous la bannière d'un parti politique et que, en arrivant là-bas, tu rentres dans un groupe parlementaire, à partir de ce moment-là, tu dois suivre le mot d'ordre. Il n'y a pas d'autre sujet que ça. C'est très, très, très important. Raison pour laquelle je disais au début que lorsque tu veux être député, il est important que tu aimes. C'est-à-dire qu'il faut aimer la politique et aimer ce métier-là. Et quand tu t'engages pour aider ton pays. Et lorsque, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il s'agit de voter une loi, peut-être qui va être bénéfique pour la République, mais bon, si ton groupe parlementaire te demande de voter, tu les votes, c'est tout. C'est vrai, il peut y avoir des débats au niveau des commissions, il peut y avoir des débats au niveau de chaque groupe parlementaire, mais ce qui est sûr et certain, c'est le mot d'ordre qui prime. Et c'est ce que nous voyons dans tous les parlementaires, un peu partout dans le monde entier. Ça, c'est bien clair et c'est connu. Donc, je crois que je reviendrai là-dessus si j'ai d'autres avis contraires, mais ça me permettra de rebondir.
Oui, je vois Paul Kessan Benigna,
vous lui mettez la tête. J'ai un avis contraire. Ce qui est décidé au sein des quartiers généraux des partis ne doit pas lier la volonté d'un député. Ne perdons pas de vue que le député, une fois élu, est un élu de la nation, représentant sa circonscription. Et si ce qui est décidé au sein d'un quartier général n'est pas conforme à l'orientation qu'il veut donner à cette politique-là, le député est libre de passer outre les orientations données. Et nous l'avons vu aussi bien en Europe, en Occident, qu'en Afrique et même en République centrafricaine. Il y a des députés, ça a été le cas récemment à l'Assemblée nationale, sur la question de la révision, de la modification de la Constitution, où il y a certains députés MCU. Le projet a été présenté et soutenu par le groupe parlementaire MCU. Mais lorsqu'on a vu le résultat de vote, sans pour autant identifier des députés, on peut arriver à la conclusion selon laquelle ces députés-là ont estimé que ce projet n'est pas... un projet qui peut contribuer
à ramener,
si vous voulez, je crois sur la question, si vous voulez, du prolongement du mandat, ouais, du mandat à la fois des députés et du président de la République.
Au moment où ils ont soulevé le cas de force majeure.
Il y a certains députés qui ont refusé de suivre l'avis, effectivement, du quartier général, du parti MCU. Et donc, je pense que si le député estime, en âme et conscience, que l'orientation donnée par son parti est une orientation liberticide, est une orientation qui entrave la bonne marche de la démocratie, il est libre effectivement parce que la vie ou les décisions rendues au sein des quartiers généraux des partis ne doivent pas lier députés.
Ça, il y a
je vous en prie, monsieur Goumenapampali. Monsieur Patrick, vous voulez réagir rapidement, comme ça on donne la parole à monsieur Goumenapampali.
Non, ce que dit Christian, c'est un cas, et je le répète encore, lorsqu'on s'engage à faire la politique, il faut connaître les méandres et les béabas. Et lorsqu'on est élu sous, c'est-à-dire au fait la bannière d'un parti politique, il faut suivre le mot d'ordre. Je répète encore, il faut suivre le mot d'ordre. Parce que quand tu ne suis pas le mot d'ordre, mais tu risques de vaciller beaucoup de choses que toi-même, tu ne comprends pas. Raison pour laquelle je réitère mes propos en disant que lorsque tu es dans un groupe parlementaire et que ton camp te demande de voter, il faut voter. Des questions là, tu les poseras plus tard.
Et même si par exemple c'est un camp qui pense que non, par l'opposition on ne peut pas voter, mais si l'intérêt de la population prime à ce niveau, est-ce que le député ne peut pas dire non, je dois voter, même s'il y a un mot d'ordre de mon parti, de mon groupe parlementaire?
Généralement, quand on vote des lois, ça ne va pas à l'encontre des intérêts du peuple. Au contraire, c'est pour aider le peuple qu'on vote des lois. Ça, c'est bien clair. Bon, d'autres donneraient des avis contraires en pensant que, bon, généralement, tout est orienté, tout est préparé, tout est visé, ou bien pour l'intérêt d'un camp. À mon humble avis, il faut pas voir les choses dans ce sens-là. Raison pour laquelle, lorsque tu es dans un groupe parlementaire, je le répète et je le réitère, et je le dis en face d'un chef de parti politique, il faut suivre le camp.
Oui, M. Gomela Pampalé, c'est à vous qu'on adresse des dernières questions. Vous
êtes... Non, d'abord, si... Oui. Si toutes les lois étaient bonnes, on ne parlerait pas de loi scélérate, vous voyez. Donc, il y a des moments où le député se retrouve avec sa conscience d'élu de la nation, d'élu du peuple, et doit voter en fonction de cela, n'est-ce pas? Il y a un sacro-saint principe à l'Assemblée nationale qu'on appelle... le mandat non impératif qui protège le député. Il n'est pas obligé de voter dans le sens que lui impose son parti, qui n'est qu'une partie de la nation.
Monsieur Paul Christian Bellinga.
D'ailleurs, je voudrais dire à monsieur Dekoma, ce n'est qu'en République centrafricaine qu'au sein des partis, il n'y a pas de tendance. Hein. Ailleurs, au sein des mêmes partis, il peut y avoir même 2-3 tendances. Ça n'oblige pas les gens à quitter les partis. Le parti pour aller créer d'autres partis. Ce qu'on a vu ici, ce qu'on a vu aujourd'hui ici en République centrafricaine, c'est que quand on étudie la sociologie des partis politiques en République centrafricaine, on se rend compte que quelqu'un au sein d'un parti, il y a juste un malentendu, une mésentente, la personne décide de claquer la porte et aller créer un parti. Et ce qui fait qu'on a un pluralisme numérique que d'un pluralisme idéologique. Vous allez voir 15, 20, 30 partis qui ont pratiquement la même idéologie. Or, ailleurs, le pluralisme n'est pas numérique, le pluralisme est idéologique. Or, c'est pour éviter effectivement de tomber dans le pluralisme numérique, il est important qu'on ait des tendances au sein des partis. On peut être au sein du RPR, au sein du MCU, au sein du MLPC, que sais-je, URCA et autres. On ne s'entend pas parce qu'il y a un autre, par exemple, ça peut être une question relative à un sujet bien précis. Il y a des tendances qui estiment que voilà, votre prise de position ne sont pas d'avis avec vous. Mais ça ne doit pas obliger les gens à écarter ces tendances-là. Et c'est ça qui fait la beauté de la démocratie au sein d'un même parti politique. Et ces tendances participent de la formation des jeunes, des militants. Il y en a qui iront faire des recherches pour venir soutenir un camp bien précis, d'autres iront faire des recherches pour venir soutenir cette tendance-là. Et ça fait la beauté de la démocratie au sein des mêmes partis. Mais faire de telle sorte que ce que dit le président d'un parti est une parole d'évangile, ce que dit le secrétaire général d'un parti ne doit pas être contesté, on rentre dans ce qu'on appelle, si vous voulez, la monopolisation de la scène politique au sein d'un parti politique, et ce n'est pas beau à voir.
Non, en fait, c'est l'autre aspect que Bellinga est en train de soulever. Tout ce qu'il dit généralement, mais les gens, ils le font aisément dans leur camp. Hein. Ça se discute, ça se parle, ça se... voilà. Mais à la fin, il y a un consensus qui se dégage. Et ce consensus, généralement, on revient à la raison. C'est, généralement, c'est comme ça. Que ça soit au Palais Bourbon, que ça soit, je sais pas où, à Kremlin et tout. Mais c'est ce qui se passe parce que ici, généralement, bon, je n'ai jamais vu des députés ici se rentrer dedans. Et puis, il y a des coups de poing et tout. Mais... ailleurs, on a vu comment les députés se rentrent dedans, ça va jusqu'à la main. Mais ici, les gens sont des démocrates, ils sont trop polis, ils se respectent entre eux, on se vouvoie à tout moment, et voilà. Et c'est l'exemple est là, M. Gomila Pompali, mais quand vous l'écoutez à l'Assemblée nationale, mais il a des termes qui touchent tout le monde, et généralement, après ses allocutions, généralement, c'est des applaudissements. Ça se comprend. Et ça, même si il doit ne pas aller, c'est-à-dire pas dans le bon sens que ce que les autres veulent, mais en l'écoutant, il y a du charme et il y a l'intérêt du peuple qui est là. Donc, je dis et je le redis encore, généralement, tout ce qui a soulevé Christian, ça se passe dans le camp, les gens s'échangent, disent tout ce qu'ils veulent, mais à la fin, ils tombent dans un consensus où ils doivent voter pour permettre à ce que l'intérêt du peuple puisse primer. C'est tout.
Oui, monsieur.
Le tout dans tout cela, Mondo, c'est que les Centrafricains apprennent de plus en plus, n'est-ce pas, à libérer la parole, à libérer les esprits. Hein. Sinon, ce n'est pas la politique qu'on va faire, ça va être le simple bagarre de camp entre camp. Il faut que la RCA travaille, œuvre à développer une certaine culture politique. Et ça commence par les partis politiques, que les militants soient éduqués.
Oui.
Que les militants apprennent à échanger, à discuter, au lieu de s'insulter. Et que les députés aussi, à l'Assemblée nationale, au lieu de dire « Ah, vous là-bas, on vous a vu par le passé, ce n'est plus votre... » Ça, ce n'est pas un débat politique.
On tend vers la fin de ce débat politique de Radio Ndekeluka. C'est ce que nous observons en ce moment. Dernière question pour tout le monde, puisque nous sommes dans la pleine campagne électorale pour les partiels et le second tour. Pourquoi devient-on député pour Cressant Biniga?
Alors, on devient député parce que on a une conviction politique et on veut faire avancer les choses au sein du parti politique, mais davantage au sein de la société. Parce que je l'avais dit tout à l'heure, un député est un représentant d'une circonscription, mais un élu de la nation. Il doit faire bouger les lignes, aussi bien pour sa circonscription, mais pour la nation, et également faire de telle sorte que son parti soit davantage dynamique. Donc, ça, c'est dingue. Mais il y a des députés qui n'appartiennent pas à des partis politiques. Alors, ceux-là ont un intérêt de faire avancer la nation. Et donc, étant député, on participe également de la gestion de la chose publique, parce qu'on vote les lois, on contrôle l'action du gouvernement, et on représente un peu.
On veut devenir député, c'est pour faire des affaires. Est-ce que c'est le rôle du député? Quelques secondes, M. Patrick Allais de Coman.
Non, je conseille aux électeurs de ne pas regarder vers cela. Parce que si on veut seulement devenir député pour faire des affaires, c'est mieux de faire les affaires. Je vais dire quelque chose ici. On ne fait pas la politique pour devenir riche. On ne fait pas la politique pour devenir riche. On fait la politique pour aider sa cité à se développer. Point barre. Ceux qui veulent être riches, ben, qu'ils aillent faire les affaires. Ils changent carrément parce qu'ils changent de métier. Qu'ils aillent faire leurs affaires et comme ça, ils deviendront trop trop riches. Et puis bon, ils vont aider le pays aussi économiquement à être solide et puis avancer. Donc, ceux qui veulent être députés, qu'ils soient sincères avec eux-mêmes. Ils soient sincères avec eux-mêmes, c'est une conviction. Le métier de député, c'est pas un métier où on dort la nuit, on se réveille le matin, on tombe au-dessus de sa tête en disant que je veux être député. Non. Ça se prépare, raison pour laquelle je disais au départ ici, il faut aimer la politique pour devenir député.
Allez, merci beaucoup, monsieur Gomina Pampali. Est-ce qu'on devient député, c'est pour avoir de l'humilité, c'est pour avoir de l'honneur et puis échapper à certaines situations dans le pays?
On devient député parce que on a adhéré à une doctrine, à une idéologie appartenant à un parti politique et on se bat pour que ce parti politique-là bien sûr, domine, mais dans le sens positif du terme, que notre idéologie domine, notre idéologie démocratique dans la démocratie. Et en même temps, on est député parce qu'on veut renforcer la démocratie. Parce que si l'Assemblée nationale est faible, si l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle, c'est l'exécutif qui va dominer, qui va l'emporter, qui va imposer. Parce que en principe, les règles de l'exécutif, en général, c'est le commandement. Hein. C'est pas la négociation, c'est pas le débat politique, démocratique. Voilà. C'est à l'Assemblée qu'on débat. Mais le gouvernement, c'est un peu comme dans l'armée, hein, garde à vous, comme dans l'armée. Et voilà. Donc, plus vous êtes député politiquement formé, vous vous ajoutez à d'autres qui sont aussi politiquement formés, l'Assemblée nationale devient forte, ça équilibre, donc, la vie politique nationale. Voilà.
Et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avions débattu aujourd'hui du rôle et du profil du député, l'élu de la nation. Et nous avons reçu autour de la table Alain Patrick Dekoma, président de la commission communication de la plateforme Béoko qui soutient le pouvoir. Merci beaucoup d'être venu, monsieur.
Merci, Armando.
Nous avions aussi monsieur Paul Cressant Biniga, juriste, politologue, porte-parole du groupe de travail de la société civile. Merci beaucoup à vous.
Merci, Armando.
Et nous avions reçu aussi M. Laurent Gomina Pampali, ancien parlementaire. Vous avez été élu 4 fois député de la circonscription de Nola 2 à l'époque. Ancien président de parlement de la CEMAC. Merci pour votre participation à cette émission.
Merci, cher Armando.
Armando Nguindi, au micro. Et la partie technique est assurée par Sylvain Namboa. À la semaine prochaine pour un autre thème. Au revoir.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.